Les chroniques du patrimoine sur Demoiselle, avec Olivier Marvaux.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nos chroniques du patrimoine mettent à l'honneur les châteaux de Charente-Maritime. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de tous les citer, tant notre territoire regorge de tels trésors. Je vous propose néanmoins d'effectuer un tour d'horizon de ce patrimoine majestueux. Certains châteaux se visitent toute l'année, d'autres seulement en pleine saison, d'autres encore ouvrent leurs portes exceptionnellement à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Enfin, certains préfèrent garder leurs portes closes, sans doute pour préserver leur intimité et leur part de légende. Le promeneur pourra néanmoins les voir ou les apercevoir au détour d'un chemin ou d'un bois, protégé derrière de hauts murs ou des grilles, cachés dans des parcs souvent luxuriants. À tout seigneur, tout honneur, commençons par l'époque médiévale, dont l'un des plus beaux témoins, sans doute le mieux restauré, est le château de Saint-Jean d'Angle, surnommé le château de Mélusine, situé à une douzaine de kilomètres de Rochefort. Le château de Saint-Jean d'Angle a tout du château fort sans en avoir la démesure. Donjons, chemins de ronde, machicoulis et bien sûr des douves. Autre témoin de l'époque féodale, toujours debout, vaille que vaille, malgré le poids des siècles, le donjon de Pont, érigé à partir du XIIe siècle. Haut de 33 mètres, il est visible à des kilomètres à la ronde. Le donjon de Pont faisait partie d'un imposant château situé sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, détruit au XVIIe siècle. De l'époque médiévale, subsistent aussi en Charente-Maritime des vestiges moins connus, notamment la magnifique tour de Brou, déjà célébrée lors d'une précédente chronique, située sur la commune de Saint-Sornin, dominant les marais de l'ancien golfe de Saint-Onge. Il s'agit là aussi du dernier vestige d'un château féodal, dont on retrouve les premières traces au début du XIe siècle. Citons aussi au lieu-dit Toulon, non pas dans le Var, mais sur la commune de Saint-Romain-de-Bonnet, entre Saujon et Sainte, le camp de César. Si ce site a probablement abrité un camp militaire éphémère à l'époque gallo-romaine, d'où ce nom pérennisé par la tradition orale, on trouve encore sur place, noyées dans la végétation, les ruines d'une motte castrale ou motte féodale, un ouvrage de défense très répandu dans le haut Moyen-Âge. Citons aussi le donjon de Lillot, dans la vallée de l'Arnoux, précisément sur la commune de Saint-Sulpice-d'Arnoux. Construit au seuil du XIIe siècle, le donjon de Lillot est une tour massive haute de 17 mètres environ, large d'une dizaine, protégé par d'épais contreforts. L'histoire locale attribue la construction de ce donjon et des fortifications de Lillot au roi d'Angleterre Henri III Plantagenet, qui fut aussi seigneur d'Irlande et duc d'Aquitaine. Continuons notre tour d'horizon avec l'un des plus beaux joyaux de notre patrimoine, le château de la Roche-Courbon, sur la commune de Saint-Porchaire. Construit à partir du XVe siècle, le château de la Roche-Courbon est remarquable à tout point de vue. Sa silhouette, d'une grande élégance, domine des jardins à la française. À proximité immédiate, des grottes nous renvoient à l'époque préhistorique. C'est ce château, bâti dans un écrin de verdure, que l'enfant du pays Pierre Loti avait surnommé, dans un élan de romantisme, le château de la Belle au bois dormant. Dans les colonnes du journal Le Figaro, au début du XXe siècle, l'écrivain Rochefortais avait lancé un appel solennel pour que soit sauvé cet édifice majeur du patrimoine saintongeais qui tombait alors en ruine. Sur la commune de La Jarne, à proximité de La Rochelle, changement d'époque avec le château de Buzet, construit au XVIIIe siècle, chef-d'œuvre de ce que l'on appellera le style Louis XVI. Le château de Buzet, que le voyageur empruntant la ligne de train Niort-La Rochelle pourra apercevoir de façon furtive dans un beau parc, sur la gauche après Surgères, en se dirigeant vers l'océan. Construit également à partir du XVIIIe siècle, le château de la Gataudière, sur la commune de Marennes, vaut également le détour et la visite, à deux pas de Boursefranc et de l'île d'Oléron. N'oublions pas le château de Surgères, dont la construction ou la reconstruction s'est échelonné sur plusieurs siècles et qui abrite la mairie de la ville. Sur les rives de la Charente, ou à proximité immédiate, bien sûr Crasane, l'un des plus anciens châteaux de Charente-Maritime, surnommé le château du Chaboté. En effet, Charles Perrault s'est inspiré d'un ancien propriétaire des lieux, un certain Jules Gouffier, comte de Caravaz, pour son personnage du marquis de Carabas, maître du non moins fameux Chaboté. Tout près de Crasane, citons l'élégant château de Panlois. Citons aussi le château de Mouillepied, déjà évoqué dans nos chroniques. Un peu plus loin, ce sont les ruines du château de Taillebourg, ou encore le château des Capucins à Tonnet-Charente, vue imprenable sur le célèbre pont suspendu. En filant vers l'océan, on peut admirer l'ancienne seigneurie des Rohan, d'architecture Louis XIII, devenue l'hôtel de ville de Soubise. Quittons les rives de la Charente pour nous rendre dans les environs de Sainte. À Ténac, on remarque le château Maguier, dont la travée centrale n'est pas sans rappeler la façade, sur son côté jardin, d'un célèbre monument parisien, l'hôtel Matignon, résidence des chefs du gouvernement français depuis le milieu des années 30. Sur cette même commune de Ténac, le château du Grand Logis attire le regard. Il est inspiré des grandes bâtisses anglo-normandes, une curiosité dans le paysage saintongeais. À quelques encablures de Saintes également se trouve le château méconnu de Niolles-les-Saintes, vestige d'une ancienne forteresse médiévale. Citons aussi le château du Douai, le château d'Écoyeux, également appelé château de Polignac. Plus au sud, près de Pont, citons le château d'Usson, ou château des Aigretaux, rebaptisé château des énigmes depuis qu'il a été transformé en parc de loisirs, bien connu notamment des scolaires de la région. Près de Jonzac, le château de Meux est agrémenté de jardins à la française. Citons aussi le château de Jonzac, dominant la ville et la Haute-Saintonge alentour. Toujours dans le sud du département, le château de Montendre est construit sur les ruines d'un oppidum, nous ramenant à l'époque gallo-romaine. À cheval sur les communes de Plassac et de Saint-Genis-de-Saintonge, le discret et très élégant château 18e de Plassac mérite aussi le déplacement. Citons encore le château de Mirambeau, transformé en relais château, construit dans un beau parc dominant majestueusement la petite ville de Mirambeau. Mais avis aux amateurs, pour y séjourner et goûter à la vie de château, il faut casser sa tirelire. Pour compléter notre liste non exhaustive des châteaux de Charente-Maritime, ajoutons le manoir ou château de Bollon, avec ses célèbres fontaines bleues sur la commune de Saint-Dizan-du-Gas. À proximité de l'axe routier allant de Mirambeau à Royan se trouve le château de Didonne, qui bénéficie d'un environnement naturel préservé. À Royan, le château de Mont, qui ne se visite malheureusement pas, fut la propriété de Pierre Dugas de Mont, dont le lieutenant, un certain Samuel de Champlain, va fonder en 1608 la ville de Québec. Enfin, citons d'autres perles méconnues de notre département, le château de Dampierre-sur-Boutonne, le château de Ransanne à Soulignonne, le château de Châtenay à Rétaux, ou encore le château de Mandac-sur-Seudre, dominant parc à huîtres et marais salants. Voilà, vous l'aurez compris, la Charente-Maritime n'est pas seulement riche de ses paysages dignes des plus belles cartes postales, riche également de ses églises romanes, de ses citadelles, de ses forts et fortifications, de ses phares, de ses vestiges gallo-romains. Elle est aussi riche et fière de ses nombreux châteaux, à découvrir et à visiter sans modération. Belle journée à tous.
À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du patrimoine sur Demoiselles.